déplacerez quand même malgré la pénibilité de vos placements. Si vous êtes riche et les déplacements seront de plus en plus pénibles pour vous, vous serez assez, comment dire, assez peu enthousiaste à vous déplacer. Et donc le frein au déplacement sera relativement important. Alors ce paramètre d'état est très, très élevé dans les petites agglomérations en France et il est proche de la barre de 2, ça vous dirait. Il est plus faible dans les villes en voie de développement. Dans les villes en voie de développement, les gens font des classes, même s'ils ont 3 heures de déplacement. Tout ça vous donne une quantité de personnes qui vont partir d'une origine vers une destination, c'est-à-dire de vos maisons vers votre lieu de travail. Ça va vous donner un flux. Pour répondre à ce flux, qu'est-ce qu'on fait? On construit une infrastructure. Une infrastructure, c'est quoi? Une infrastructure, c'est le support physique, comme je disais tout à l'heure, qui permet à ces déplacements de se produire. Donc, on les caractérise par deux paramètres sur lesquels je ne vais pas m'étaler. Ce sont les paramètres de débit, de capacité à produire du débit. Donc, si on veut que les déplacements ce matin se fassent en moins d'une heure, on va faire en sorte que les 1000 personnes qui viennent ici supportent un débit de 1000 unités par heure. Et on va faire en sorte que le tuyau sera plus grand. Si la pression augmente ou la génération augmente, et bien on va grandir le tuyau, c'est ce que je vais faire comme démonstration tout à l'heure. Je vous épargne tout le petit sous-système de lien qu'il y a entre le débit et la vitesse des flots. Grosso modo, il n'y a pas de lien comme on le pense, c'est-à-dire lorsque le débit est très élevé, ça ne veut pas dire que la vitesse est très élevée. C'est 1000 véhicules par heure qui viennent ici, ça ne veut pas dire qu'il y a plus à une vitesse très élevée. Il n'y a pas de lien et ça c'est une pub que je fais par la deuxième partie de mon cours. Pour les gens qui s'intéressent à cette question. En termes de CO2, eh ben, chacun de des véhicules, que ce soit un train, un vélo, tout ce que vous voulez, va émettre du CO2. Il peut être caractérisé par un effort mécanique, donc ça, je m'adresse plutôt aux mécaniciens, par un effort qu'on fera sur le véhicule. Un véhicule va émettre du CO2 en fonction de la technologie qui sera utilisée. Et par rapport, donc, le couple vitesse, donc à certaines vitesses, vous émettez plus de CO2 qu'à une autre vitesse, le couple vitesse-effort sur le système mécanique, et bien vous donne un facteur d'émission, que ce fait être, on parlera mieux que moi tout à l'heure, c'est un facteur qui convertit tout simplement la puissance que vous générez, le combustible que vous mobilisez, en émission de CO2 ou en émission d'autres gaz. Le total, donc si je multiplie les flux, les émissions individuelles, les distances par pôle, j'obtiens des tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Ce mécanisme-là, comment il se produit aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'augmentation des vitesses... Alors, je n'ai pas dit une chose importante. Il y a un type qui s'appelle Zahavi. C'est une conjecture qu'il a faite, qui est assez bien démontrée au moins par France. Grosso modo, notre distance, tant que nous sommes prêts à mobiliser tous les matins pour venir travailler, cette distance-là est constante. Donc si je me déplace, si je mets une heure pour me déplacer du centre à ici, et que je mets à pied par exemple, que je mets une heure à venir en voiture ou une heure en avion, ce temps mobilisé à mon déplacement, alors ce temps argent, hein, c'est un peu complexe, mais ce temps-là, ce budget-là, est constant dans le temps. Cela veut dire en fait, plus mes moyens de transport seront rapides, plus j'aurai tendance à mobiliser le plus de monde, à aller au plus loin de ce temps et à m'éloigner du centre. Hein, tout simplement parce que je considère que je rationalisais mon déplacement s'il n'a pas dépassé une heure. Je crois qu'il y aura beaucoup. Ce que vous voyez ici, c'est le phénomène induit par ce mécanisme. Ce qui est en bleu dans cette carte, c'est la diminution en pourcentage, donc c'est 15% de diminution de la population à l'échelle communale. C'est-à-dire que c'est, en bleu, c'est les communes qui ont perdu 15% de la population entre 90 et 99. En jaune, c'est l'inverse, c'est ceux qui ont gagné 15% de population entre 90 et 99. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un effet de vase communicant, c'est-à-dire que les campagnes se vident, grosso modo, mais pas pour alimenter les centres urbains qui sont en noir dans cette courbe, mais pour alimenter les premières couronnes des villes. Et on appelle ce phénomène-là l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est quoi en fait finalement? C'est une ventilation de la population vers des zones qui sont à proximité des centres urbains, et cette proximité, elle est à peu près de la ville.
Mais les centres, le noir, ça veut pas grand chose, ça.
C'est les zones urbaines en fait.
Oui, d'accord, mais est-ce qu'elles montent ou elles descendent?
Elles sont stables. Alors, pour certaines villes, comme Paris, elles sont de même organisation, elles sont vides. En fait, ce que vous voyez en noir, grosso modo, c'est ce que j'appelais la fraction tout à l'heure, sont des villes qui possèdent plus d'emplois que de l'espace. Et donc, ils deviennent des pôles d'attraction et non pas des pôles de génération. Et vous voyez, hein, l'étalement urbain, il est net. Hein, c'est impressionnant. Hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais donc, clairement, un phénomène à l'ordre. Parce que quand on parle d'étalement urbain, les gens imaginent quelque chose qui s'étale. C'est-à-dire comme si les centres urbains devenaient de plus en plus. Faisaient tâche de vide. Hein, c'est comme ça qu'on imagine l'étalement urbain. On se dit, le géant casino, le Leclerc a ouvert ici, etc. Et il dessert les gens du centre. En fait, c'est pas ça qui se passe. C'est que c'est les campagnes qui alimentent ces zones-là. Ça grandit effectivement, mais sans perdre en densité des centres. Mais c'est plutôt, si vous voulez, une autre ventilation de la population qui va de plus en plus vers la périphérie. Si vous voulez, c'est comme si les choses restaient un peu égales pour les centres, mais que l'augmentation démographique s'appliquait plutôt aux premières, aux deuxièmes couronnes. Qu'est-ce que cela donne en termes d'infrastructure? Je vous donne un exemple pour relever ce que ça donne, des flux très concentrés. Donc ça, c'est des flux de débit, c'est des véhicules par heure sur une grosse fréquence. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit des pics atteints le matin. Et un volcan ou le reste de la journée, très peu de véhicules. Ce qui se passe dans le temps, si on observe, j'ai pas des cours de d'après les années 60, mais dans les années 60, vous aviez la même chose, et c'était comme ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le cratère augmente et le centre du cratère aussi augmente. C'est dû simplement à la saturation des infrastructures. Les gens, comme ils savent c'est saturé, ils décalent leurs horaires par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez? Au lieu d'avoir des routes qui sont de moins en moins saturées, vous avez en fait des routes qui sont de tout le temps saturées. Et vous allez voir dans quelle logique les constructeurs automobiles agissent, si on peut en deuxième point de débat. La logique des constructeurs automobiles, avec les GPS, c'est de combler complètement cette route. D'arriver à la saturation parfaite du système de transport. Parce que tout simplement, on a plus de véhicules. Vous imaginez que ça fait grâce pour le nombre de véhicules qui s'est passé sur la trace. Donc plus ce nombre est grand, plus le constructeur de l'autre est grand. Ah, j'ai mis dans le flèche. Donc je vais voir maintenant comment le système fonctionne. Comment il fonctionne aujourd'hui. Grosso modo, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une hyperconcentration des activités dans les grands centres, une augmentation donc de l'activité des grands centres, une augmentation due, donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'étalement urbain, de la génération, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de zones résidentielles en périphérie qui produisent, entre guillemets, de plus en plus de gens qui vont se déplacer. Vous avez une diminution sensible du frein déplacement. À cause du chômage, simplement, les gens sont moins résistants au déplacement, ils sont obligés de se déplacer. Alors, c'est plutôt vrai en Île-de-France, hein, beaucoup moins vrai dans les régions de province. Et une distance kilométrique, comme je disais tout à l'heure par rapport à la conjecture, une distance kilométrique qui s'agrandit tout simplement parce que les modes de transport sont plus rapides et donc nous permettent de décaler plus en plus. Qu'est-ce que cela donne? Cela vous donne donc une concentration ou au moins une stabilisation des flux. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on va de plus en plus loin, les flux devraient être moins nombreux, mais comme on a une augmentation simultanée de la génération d'attraction, on est de plus en plus nombreux à se déplacer. Donc cet effet-là stabilise ou fait en fait, en réalité, augmente légèrement les flux dans le temps. Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ce problème-là? Eh bien, on a construit des infrastructures qui permettaient d'avoir des flux plus nombreux. Donc, on a fait des RER à deux étages, des autoroutes, on a rajouté des voies indéfiniment, etc. On répond, si vous voulez, le système de transport répond à ce mécanisme urbain en augmentant la capacité des infrastructures. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne l'augmentation du flot, c'est-à-dire le nombre de véhicules qui va circuler, une augmentation globale de la vitesse moyenne du flot, et donc une augmentation du facteur d'émission. C'est-à-dire qu'en fait, on va de plus en plus loin, on est de plus en plus nombreux, on va de plus en plus vite, et bien qu'est-ce qu'on fait? On émet globalement de plus en plus. Et donc, notre global. Alors, pourquoi j'ai mis une flèche ici? Alors, cette flèche, ça va, c'est génial, cette petite case. Hein. Cette flèche-là, elle montre l'effort sur les facteurs d'émission. Grosso modo, on a multiplié les gros cylindrés, les 4x4, tout ce que vous voulez, sur le parc automobile. C'est eux qui commencent à dominer. Ils font croître le taux d'émission moyen des véhicules. Et donc, une diminution de l'effort sur les consommations des véhicules et les émissions de CO2 engendre, donc vous imaginez un truc qui diminue, tout ce qui augmente, et là vous faites exploser les émissions de CO2 à cause de ce mécanisme. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un bouclage. C'est la politique de Londres, vous savez, le péage urbain où vous émettez du CO2, c'est cette idée du Grenelle de l'environnement de taxer les voitures qui polluent. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites une vignette verte? En fait, qu'est-ce que vous intégrez dans le coût de déplacement, dans cette distance dont je parlais tout à l'heure, une dimension supplémentaire qui est votre participation au gaz à la ville. Donc, qu'est-ce qui se passe si on vous taxe tout ça? Et bien, votre distance augmente, hein, la distance généralisée, celle qui. Et donc, du coup, vous allez avoir un effet cascade qui va faire que. Donc, ça diminue. Pardon. C'est une flèche qui est dans le même sens. Alors, je ne sais pas, je peux peut-être m'embrouiller.
Si on taxe, on va moins.
On augmente la distance. Ça coûte plus cher. Donc, c'est comme si on
la distance moins. Argent.
Oui, mais du coup, là, en fait, c'est peut-être dans le sens où la distance kilométrique est diminuée en conséquence. Enfin, on peut se déplacer moins loin.
Voilà.
C'est un budget constant.
C'est un budget constant, exactement. Mais on va voir, parce que je crois que je m'embrouille dans une flèche, comme je les ai faites ce matin. Je vais voir où j'en suis dans mon système, en fait. Donc, grosso modo, là, si je pars... Attendez, je vais aller... Là, je m'en fais une erreur sur cette flèche, donc, augmente. Mais grosso modo, si je fais augmenter cette flèche et je fais toujours augmenter les leviers urbains sur lesquels je n'ai pas agi, puisque je fais un exposé là sur le système de transport, je considère que je les subis ces variables-là, ben je m'aperçois que j'arrive à stabiliser ou à augmenter les émissions de CO2 en introduisant, donc c'est une flèche qui monte ici, hein, en introduisant un coût supérieur, un coût supplémentaire dans les émissions de CO2. Et en augmentant les efforts sur les véhicules, sur le facteur d'émission des véhicules. Tout simplement parce qu'en fait, alors vous n'avez pas les équations, donc vous pouvez pas voir matériellement comment ça se passe, mais cette part-là dans les équations joue beaucoup plus fortement que les autres parts. Et donc, j'en arrive maintenant, comment diminuer, alors une simulation inverse, comment diminuer les émissions de CO2 de manière substantielle, ben, il faut maintenir les leviers dans l'état dans lequel ils étaient tout à l'heure, agir énormément sur la distance kilométrique, c'est-à-dire réduire la distance kilométrique. Mais si vous réduisez la distance kilométrique, vous allez augmenter les flux, hein, on est bien d'accord, parce que si les gens sont très près de leur milieu de travail, ils sont par exemple disons, à 10 km au lieu d'être plus loin, ben, ils sont plus nombreux à emprunter l'infrastructure. Donc ce que vous devez faire en même temps, c'est au moins stabiliser ou réduire l'attraction de la génération. Grosso modo, cela veut dire que vous allez créer de l'emploi dans les lieux où les gens habitent. Grosso modo, c'est ça le raisonnement. Et donc là, maintenant, je vous présente une simulation qu'on a faite pour le ministère, où on nous donne les effets. C'est le schéma que je vous ai montré à l'instant, mais avec les équations et les effets. Alors, on part de base 100. D'accord. Aujourd'hui, c'est le poste des émissions de CO2 liées au transport, donc en 2000. Sur cette base 100-là, je veux, moi, arriver, bien entendu, à une base 20, à 25, puisqu'à 2050, je dois arriver à utiliser par 4. ici, donc je vais faire, le raisonnement que je vais faire, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire je garde mes variables constantes et j'en fais évoluer tout seul. Vous voyez la caricature en fait du phénomène. Si la distance augmente dans la dynamique dans laquelle elle s'est installée depuis 20 ans, là je vois que je multiplie par 2 les émissions de CO2. J'ai gardé constant le reste. Hein. Ce que vous voyez en bleu là, c'est la croissance démographique. Grosso modo, la croissance démographique joue très faiblement sur les augmentations. Elle ça fait. La tendance est une tendance de croissance. Par contre, c'est une croissance faible. Les effets mécaniques liés à l'amélioration des véhicules. Donc je m'adresse encore aux génériques. En fait, je m'adresse aux génériques, c'est indirect parce que je m'adresse aux gens qui pensent que la technologie du véhicule va révolutionner le monde. Quand je dis les ondes mécaniques, c'est une caricature. Vous allez voir qu'on ne peut pas faire sans eux en plus. Le véhicule à 120 grammes. Quand je dis véhicule à 120 grammes, ça veut dire que l'ensemble du parc en moyenne est dans 120 grammes. Vous savez que ça veut dire si je suis aujourd'hui à 120 grammes, vous savez que ça va prendre une quinzaine d'années pour renouveler l'ensemble du parc. Ce rythme-là, dans 15 ans, ça veut dire que vous avez 3 cycles pour arriver au faire contact. Aujourd'hui, moi j'ai fait le scénario le plus caricatural, aujourd'hui j'ai dit tout le monde à virer sa voiture et à acheter une voiture à 100 grammes. La moyenne c'est 150. Et bien vous voyez la tendance baissière, et tout donc cette tendance baissière, à peu près à moitié, même pas à moitié en fait, à 55% à peu près à l'horizon de 2050. Tout le parc,
j'ai fait. 30.
Là, je suis à 2030 sur 60%, enfin, 60%, à 2050, j'atteins 50%. Cela veut dire qu'en fait, j'ai fait le truc le plus irréaliste possible, rupture technologique. La rupture technologique existe, tout le monde achète cette rupture technologique dans l'immédiat. À 70 grammes, c'est impossible, hein, on est bien d'accord, 70 grammes pour l'ensemble du parc, c'est-à-dire qu'en fait, il est complètement électrifié. J'arrive à du facteur 4, je m'approche au facteur 4. Sachant que je n'ai pas fait croître ni la distance, ni la génération, ni la traction, etc. Je n'ai pas fait des. Là, je suis resté aujourd'hui dans l'état dans lequel on est et tout le monde a été transformé. Vous imaginez l'ampleur de l'effort. Et ici, vous avez le total. C'est-à-dire l'ensemble des paramètres conjugués. J'ai mis de la voiture à 120 grammes, tout le parc à 120 grammes. Et les effets de distance, etc. Et vous êtes sur une tendance haussière. C'est impressionnant quand même, non? Je ne sais pas comment vous, mais moi ça m'impressionne. Ça veut dire que vous avez beau agir sur des technos, et bien, en fait, le phénomène urbain qui est en amont à votre mobilité, bien, lui pèsera toujours plus que votre techno. Je sais que ça ne devrait pas être dans le monde de la technologie.
Non, mais oui, mais vous n'imaginez pas une invention qui peut avoir lieu en cours de route. La voiture à air comprimé, par exemple.
On va en discuter pendant le débat, mais même à air comprimé, mais à air comprimé, vous faites la voiture à air comprimé, la voiture électrique, là j'avais préparé deux ou trois notes sur la voiture électrique, vous n'aurez pas cette structure. Parce que déjà, il faut fabriquer, mais en fait, vous avez les tendances, les rangements de temps, etc. Donc, vous allez fabriquer cette voiture à air comprimé, et bien la tendance, et la génération qui est. J'ai terminé. Ah, pardon. C'est pas pour ça. Vous avez un effet mécanique qui est tellement fort sur la mobilité que ça efface complètement les effets sur les technos. C'est ça le problème en fait.
D'où l'idée de faire des tours.
Exactement.
Ouais. L'effet total avec une voiture qui a 70 grammes en moyenne.
Ouais. Et bien on sera sur la courbe bleue là, à peu près. Mais. Tu imagines hein, l'effet total. Comment atteindre 70 grammes
dans tout le parc
aujourd'hui? On a 3 cycles, on a 45 ans pour le faire. Je ne sais pas si vous voyez les pubs aujourd'hui, la pub elle n'est pas vers la voiture à 70 grammes. Hein.
120
grammes. Hein, elle est plutôt à 200 grammes la pub là aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le phénomène en amont qui est. Et ce n'est pas le système de transport physique. Comment on le comprend, c'est-à-dire que ce n'est pas les tuyaux, etc., qu'il faut augmenter, mais c'est la localisation des activités qu'il faut changer. Grosso modo, c'est ça hein, le résumé dans l'intervention.
Et ça, c'est vrai en France, est-ce que c'est vrai partout dans le monde ?
Alors, c'est vrai pour les pays occidentaux. C'est plus fort pour les pays anglo-saxons, type États-Unis, Canada, etc. Et c'est aussi fort pour les pays en voie de développement. Alors, par contre, je n'ai pas la quantité, parce que vous imaginez, pour faire ces calculs-là, il faut avoir des données très fines. Hein. Je n'ai pas le parc automobile des Indiens. Tata va nous construire le super véhicule bien polluant. Je n'ai pas ces chiffres-là et je n'ai pas les données démographiques et leur localisation dans l'espace. Mais on peut faire l'exercice. Grosso modo, la tendance à l'étalement urbain et à la concentration des grandes mégalopoles. C'est ça, grosso modo, la tendance. Voilà, alors là, ça c'est très rapide. Tous ces scénarios, je les ai faits. Là, vous avez les villes divisées en trois zones, la zone centre, la première couronne et la grande couronne. Grosso modo, Compiègne, ça ne s'applique pas beaucoup. Mais pour les grandes métropoles, Lyon, Marseille, tout ce que vous voulez, ce graphe démontre en fait que c'est la participation des gens qui s'éloignent du centre pour des raisons de coûts du foncier ou de cadre de vie, qui participent plus fortement à cette croissance des distances, en fait. Il ne faut pas les accuser, il y a des mécanismes ensuite foncés qui sont derrière, et c'est ces mécanismes qu'il faut traiter en premier. Voilà, je vous remercie. Ah, pardon. Non, il ne faut pas plaisir, si tu veux. C'est bon ? On peut y aller, allez. Voilà. J'espère qu'il y a des réactions, hein.
Juste par rapport à l'étalement urbain, est-ce que dans les agglomérations, il y a une limitation de la vitesse, de, par exemple sur les rocades ou les périphériques, est-ce qu'il y a une récession de cet étalement urbain constatée ?
Ah non, alors il faut faire attention, l'étalement urbain, les durées, c'est 20 ans. Hein, les observations, c'est les ordres de grandeur, c'est 20 ans, 30 ans. Les dispositifs qu'on a mis sur la limitation des vitesses, en fait, si je reviens sur mon système, c'est ici, hein. Tu vois que c'est en fin de chaîne, en fait. C'est des trucs qui datent d'il y a 5 ans, à peu près. Le problème de la limitation de vitesse, c'est que vous n'agissez pas sur le flux. Vous agissez sur le comportement du flux sur l'infrastructure. La limitation de vitesse augmente les débits. C'est-à-dire que vous avez plus de voitures. Si vous roulez tous à 60 sur le périph', vous êtes plus nombreux à rouler à 60, parce que votre débit est fluide. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre... Salut. Vous allez atteindre un optimum, le meilleur optimum pour polluer, entre guillemets, hein, j'exagère. Mais le premier optimum, puisque vous êtes à la vitesse la plus efficace pour maximiser le débit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup, vous êtes à la meilleure vitesse pour avoir beaucoup de voitures.
Mais dans un sens, si l'on respecte la règle des 1 heure de trajet toléré, enfin, que les gens expriment.
Alors ça, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un effet rebond, c'est-à-dire, l'idée, c'est est-ce que le rallongement de la distance, finalement, hein, c'est ça que tu dis, va entraîner une délocalisation des gens. Les gens vont dire, je vais habiter un peu plus près, tout simplement parce que ça me prend plus de temps. Ce phénomène, on ne l'observe pas beaucoup aujourd'hui. Tout simplement parce que le frein au déplacement est de moins en moins fort. Les gens... Si tu veux, ça leur coûte tellement cher. En fait, le budget de transport, le problème, c'est que c'est un budget assez irrationnel. Les gens ne le voient pas comme un poste incompressible dans leur budget. Le loyer ou l'électricité, quand vous consommez, vous le voyez vachement bien. Les transports, c'est un budget qui est assez dilué. Et comme il est mélangé à du temps, non, alors je parle du vrai budget. Comme il est mélangé à du temps, vous avez du mal à le rationaliser. Et aujourd'hui, le poids du budget de transport est tellement faible par rapport, même si élevé, hein, dans la valeur absolue, mais il est tellement faible par rapport aux autres poids que c'est l'immobilier, grosso modo, qui impose votre localisation. En fait, l'idée, ce serait... on touche à des mécanismes hyper complexes, en fait. Hein, c'est toucher à du foncier, toucher à la localisation des activités. C'est ça, les vrais enjeux. Mais dans un système où on a la liberté de localisation sur le territoire, et ben, on a du mal à agir sur ces leviers-là.
Par exemple, si on augmente... Enfin, sur le moment de l'essence, ça va réduire l'émission. C'est plutôt ça qui aura plus d'impact.
Alors, il y en a un. Mais regarde, le doublement du baril de pétrole, c'est une diminution de 5%.
Je dois, donc depuis le début de l'année, en fait, ça n'a pas diminué. diminuer, par exemple, c'est quasiment doublé le pétrole.
Ouais.
Ça n'a pas du tout influencé justement sur les...
Si, ça a influencé. On observe, vous avez vu tous les débats sur la TIPP, etc. Sarkozy, bon bref, il y a eu tous ces débats-là. C'est, est-ce que la manne, est-ce que l'augmentation du baril du pétrole augmente la manne de l'État? Est-ce qu'on gagne plus d'argent en taxes lorsque le pétrole augmente? Eh bien non, puisque en fait, les gens diminuent leur consommation. Mais les ratios ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire doubler le pétrole, ce n'est pas diviser par deux les automobiles. Et ben c'est ce que je disais. Donc depuis 2003, on observe à peu près une diminution de 5%. Alors quand je dis 5%, c'est des kilomètres de voyageurs. Ça veut dire c'est un nombre de personnes par kilomètre parcouru. C'est comme ça qu'on compte dans le domaine de transport. Ce n'est pas le nombre de voitures. C'est un nombre de voitures ramené à une distance parcourue. C'est ça qui a du sens en fait en termes de carburant.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas une temporalité? Ça c'est à court terme. Enfin,
Alors,
à penser qu'il y a une substitution marquée qui est susceptible de se faire plus de temps.
Alors, les ordres de grandeur.
Vous avez une rigidité à court terme, une qualité rigidité totale à court terme, et puis vous avez quand même une flexibilité relative au fur et à mesure du temps.
Tout à fait. Alors, les économistes ne savent pas la modéliser, celle-là. On ne sait pas modéliser une très très forte augmentation. On la voit, si tu veux, on ne voit pas trop la croissance du coût du carburant, on ne le voit pas trop sur le budget, parce qu'en fait, le temps pèse énormément sur le budget. Le truc, c'est que l'on voit lorsqu'on taxe de manière frontale. Typiquement, péage urbain, ça marche. À Londres, c'est 15%. On a calculé exactement le péage, comme dans les examens. On a calculé le péage, et le péage a diminué de 15% le flux, tout simplement parce que c'est une taxe visible. Sur le carburant, comme c'est plus doux, on pense que l'adaptation est très forte. Ça, c'est le même phénomène que vous avez dans l'énergie. C'est-à-dire que lorsque vous taxez énormément l'électrique, si vous réduisez d'un degré la température de chez vous, vous économisez à peu près, c'est une sorte de grandeur, 5 ou 6% d'énergie. Donc les gens adaptent d'un degré. Et il y a une adaptabilité au prix qui est très forte. Et on ne la connaît pas, en fait.
Juste une dernière question. Par exemple, on sait que l'impact créé par un transport en commun, la grande couronne, entre Paris, ça a beaucoup d'impact sur les émissions. Et peut-être qu'un transport en commun, donc les gens vont peut-être prendre le transport en commun, ça va avoir un impact, ou c'est plutôt que ça va être
bien sûr.
Il y a d'autres gens
bien
qui
sûr.
Vont finalement prendre le débit. Fin...
Non, en fait, voilà, le problème, c'est ça. Il y a un impact. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous augmentez les coûts, péage ou carburant, ce que vous voulez, vous allez avoir ce qu'on appelle un report modal vers le mode de transport le moins cher, en distance. Le plus près, pour vous. Donc vous allez aller vers celui qui est le moins cher. Le problème, c'est qu'on est tous en train de croître. Quelque chose qui croît et qui se reporte, ça ne veut pas dire quelque chose qui diminue. Donc vous allez voir des parts modales augmenter, mais des parts de véhicules particuliers augmentaient encore. Je ne sais pas si vous voyez le mécanisme. Quelque chose qui croît, sur le solde, vous avez un report modal, mais ça continue à croître. Donc comme nous on est dans des objectifs baissiers, on est très loin encore avec le report modal sur un levier disponible pour réduire les émissions de CO2. Et c'est pour ça que je défends l'idée à chaque fois dans mes exposés, que c'est ces points-là, en fait, c'est rapprocher l'origine à destination. Pourquoi se prendre la tête à jouer sur le système de transport tant que c'est en revenant aux fondamentaux, c'est-à-dire pourquoi on se déplace, qu'on a les leviers les plus puissants. Il faut partir sur ces leviers-là. Alors, cette idée-là commence à faire son chemin, et le SDRIF, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, maintenant, il considère qu'il faut avoir une politique de localisation des activités la moins éloignée des résidences pour donc faire des avantages fiscaux, etc., aux entreprises qui se localiseront dans des endroits où les gens habitent.
Actuellement, par exemple, j'ai dit que c'était 150 grammes à peu près d'autodémission de voiture. Et comme les voitures maintenant et les moins, je ne sais pas si les personnes se disent maintenant avec des voitures qui émettent moins, on peut se permettre le droit de la prendre pour aller pour aller au travail, alors qu'avant ils ont peut-être dit ils sont quand même à rejeter pas mal, mais sans attention.
En fait, je caricature énormément mon propos parce que tout est bon à prendre dans la réduction des émissions de CO2. Le problème, c'est qu'il faut partir sur des tendances baissières pour tout. Penser que les gens feront plus de distance parce qu'ils émettront moins, c'est quelque chose, moi, que je, je vais pas spéculer, pourtant tu vois, je travaille vraiment dans le domaine, et je vais pas dire les gens en prendront conscience, c'est des choses très difficiles à modéliser, on est bien d'accord, hein. Donc parce qu'ils vont prendre conscience qu'ils émettent moins, donc ils iront plus loin, c'est un mécanisme à mon avis qui est pas en place, c'est un avis personnel, hein. C'est pas du tout argumenté. Par contre c'est bien d'encourager les gens à réduire, à acheter des véhicules classés A en termes de performance CO2, tout simplement parce que vous encouragez une tendance baissière. Tant que ça baisse, c'est bon. Il faut que ça baisse quelque part. Par contre, ensuite, c'est l'ampleur. Quand je fais ce schéma, je ne suis pas en train de dire, les génies mécaniques, arrêtez vos efforts sur le CO2. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, allez-y, mais ça ne suffira pas. Ce n'est pas pareil, hein. Non, avec quoi ?
Du nucléaire.
Ouais, vas-y.
Et qu'on utilise des voitures électriques avec des émissions.
Et si ? Ah, bon, ça c'est la partie que je préfère de mon cours. Le nucléaire, ça marche comment ? Tu as un besoin énergétique fondamental en France, d'accord ? Tu le produis avec du nucléaire, parce que l'électricité, ça ne se stocke pas. Donc on appelle ça une base. Quand tu as un besoin ponctuel d'énergie, qu'est-ce que tu fais ? Tu allumes une centrale au gaz. Là, maintenant, toute notre énergie supplémentaire dont on a besoin aujourd'hui est produite par du gaz. C'est pour ça que le kilowattheure d'énergie électrique en France, pour le chauffage, il est de 180 grammes, il n'est pas zéro, 180 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Tout simplement parce qu'en hiver, quand il fait froid, et bien, tout le monde se met à mettre son chauffage. Vous avez vu ce qui s'était passé là par le pic qu'on a eu cet hiver sur France Info, vous avez les 1700 mégawatts, vous ne savez pas parler de ça. Bon, bref, c'est pas très important. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre tout. Et même, en fait, on ouvre tout et on importe un peu. Donc, ton mix énergétique, c'est-à-dire la façon de produire de ton électricité, eh ben, elle est dominée à ce moment-là par du fuel, du gaz, du charbon.
Oui, mais ça aussi, c'est susceptible d'évoluer.
Tu ne peux pas faire autrement. Comment tu vas réguler avec une centrale nucléaire ? Tu ne peux pas l'allumer et l'éteindre comme une hydraulique ou une gaz. Comment ? Les barrages, on les vide, hein, à ce moment-là. Là, moi, j'ai tout vidé. J'ai mis 12% d'hydraulique, j'ai mis même mon éolien, là, mes 2% d'éolien qui se baladent. Je mets tout. Je ne peux pas mobiliser en moins d'une journée de l'énergie nucléaire. Je ne peux pas l'allumer. Alors que le gaz, si, tu allumes la flamme, pouf, et ça produit de l'énergie. Et c'est cette énergie que Power te vend.
C'est en moyenne 180
grammes pour le chauffage. Pour le chauffage. Le mix énergétique pour produire de l'effet joule, c'est-à-dire de la chaleur, c'est 180 grammes de CO2 par kilowattheure produit. C'est beaucoup moins pour l'électricité spécifique, puisque l'électricité spécifique est à base de nucléaire, fondamentalement, en majorité. Donc quand tu vas mettre tes voitures, tu vas brancher tes voitures, tu vas créer des pics. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre du gaz pour répondre à ces pics.
Ah non, on peut recharger les voitures la nuit.
Alors voilà, ça c'est la grande... Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va tous se mettre à charger nos voitures la nuit et on va créer un pic qui sera exactement le même que celui du chauffage. Alors, ce qui peut se passer par contre, c'est créer une nouvelle base, hein, c'est ce que tu veux dire ?
Non, mais je disais, parce qu'au lieu de réguler, enfin, c'est un peu ce qu'il disait, mais au lieu de réguler au niveau de la production, si on régule au niveau global sur la consommation, donc en essayant de faire que les consommations des voitures qui sont branchées soient vraiment réglées pour lisser le truc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen ?
Bien sûr, ah, tout à fait. On pourrait faire une nouvelle base. C'est-à-dire, dire, en journée, les gens se chauffent, donc je suis au gaz. La nuit, ils branchent leur voiture, ça fait un deuxième pic. Donc je colle ces deux pics-là, et du coup, ça devient une nouvelle base. Le problème, c'est que tu vas avoir l'été et l'hiver. Et donc, en été, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, tu vas avoir des voitures qui seront toujours branchées, elles, le soir. Et qu'est-ce que tu vas mettre ? Tu vas mettre du gaz. Si vous voulez, en fait, il y a un problème structurel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie électrique se produit sur des fondamentaux qui sont le nucléaire et ce qu'on appelle les énergies de pointe, c'est-à-dire les énergies qui répondent à des besoins ponctuels. Si on arrivait à homogénéiser l'ensemble des comportements, tout serait parfait. Mais même pour le chauffage, on ferait ça. On dirait aux gens, chauffez-vous de manière répartie, toi tu as le droit de te chauffer maintenant, toi le voisin dans une demi-heure, etc. Tout le monde se chaufferait et on arriverait à lisser les courbes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça sur des comportements individuels. Ouais.
Là, tout se passe comme si, finalement, on ne pensait que consommation.
Exactement.
Et donc, j'ai vu une exposition vachement intéressante, ça s'appelle Mégawatt.
Tout à fait.
C'est parce que c'est là qu'il y a
Mégawatt. Exactement. Et Mégawatt, qu'est-ce que dit Mégawatt? Il dit d'abord, jouer Mégawatt, c'est ce principe où votre économie a une valeur. C'est-à-dire, grosso modo, le principe est le suivant, c'est j'ai une maison ou une voiture, mais j'ai une maison qui est mal isolée, je paye tous les mois, disons, 150 euros. Qu'est-ce que je fais? Mégawatt vient et vous dit, bon, continuez à payer 150 euros tous les mois, d'accord, mais moi je vous isole dans votre appartement, donc vous allez payer plus que 50 euros au lieu de 150, d'accord. Mais en fait, au lieu de, vous allez vous continuer, et les 100 euros qui, d'investissement, moi c'est Mégawatt qui les récupère. Le deal est super bon. Vous n'allez pas financer l'isolation, vous allez continuer à payer vos factures comme vous le payez, et lui, il a provoqué par de l'économie, par des négawatts, de l'argent et de la croissance. Et mais ça part sur l'efficacité énergétique. L'idée, c'est de dire, effectivement, au lieu de considérer que la consommation, c'est quelque chose qui ne peut pas changer, je vais agir, au lieu d'agir sur l'offre, j'agis sur la demande. Et je réduis la demande. Et c'est exactement ça que je dis sur le domaine des transports. Je dis, si j'agis sur l'attraction et la génération, je réduis la demande de transport. Et du coup, je réduis mes émissions de CO2.
Je suis un peu gêné avec ça, parce que, est-ce que justement, ce phénomène de délocaliser les zones d'attraction ne va pas avoir l'effet pervers d'augmenter cette zone de mobilité
C'est le vrai risque.
Maintenant, il y a plus en plus d'entreprises autour de Paris, sur la Grande Couronne, et maintenant, il y a des gens qui habitent sur Chartres.
C'est le vrai risque. Le vrai risque, c'est celui-là, en fait. C'est comment contrôler la localisation et être sûr que les gens qui vont habiter un endroit vont utiliser, vont se diriger vers l'activité. Mais on sait aujourd'hui que les migrations alternantes, c'est-à-dire les migrations pour le travail, ce ne sont pas les plus, depuis une dizaine d'années, avec la RTT, etc., ce n'est plus le premier poste de déplacement. Achat a complètement explosé. Loisirs et ce qu'on appelle escapades, c'est-à-dire l'immigration que vous faites le week-end. Si déjà on réduit par de l'urbanisme l'achat, ça c'est facile à faire. La boulangerie, on la met à Auchan, on la met au rez-de-chaussée. On peut réduire de 30%. Je dis achat, mais c'est la crèche, l'école, etc. Tous les services peuvent réduire déjà une bonne partie. Effectivement, ensuite, sur l'emploi, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, à mon avis, c'est des politiques volontaristes qui peuvent le faire. Je ne sais pas comment on fait concrètement, comment un élu peut dire aux gens, vous qui habitez là, alors si, les zones franches, c'est un peu ça l'idée, hein. C'est que l'emploi est consacré aux habitants des communes. C'est ça une zone franche. On peut inventer des mécanismes de ce type-là, mais c'est des mécanismes un peu complexes. Oui. Je ne les connais pas, hein, vraiment, très sincèrement.
Une question pour revenir, par exemple, c'est à l'extrême, on va dire, il y a un monde. Un intervenant qui parlait du Niger avec tout le monde qui est complètement indépendant de la mine. Là, ça va être pas sûr que ça, c'est pareil. Tous les gens, ils sont obligés de leur emploi. Enfin, s'il y a un truc qui perd,
et les problèmes
pour créer une autre entreprise. Je comprends pas.
Ah non, là, j'ai pas compris.
Parce que là, vous dites qu'il faut créer les emplois au milieu des habitations pour les limiter le transport. Ce qui fait que les gens vont être complètement dépendants de leur emploi.
C'est pas le cas aujourd'hui?
Bah, si, mais je ne suis pas dit le contraire. Mais je parle, si vous faites des pôles un peu, on va dire.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça.
Par exemple, je ne sais pas, il va payer.
C'est pas très flexible.
Est-ce que la flexibilité existe? Vous connaissez cette cycle là-dessus? Ah non, au contraire. Moi, je vois. On est en train de faire le même raisonnement, toute chose. Alors, c'est du théorique, on est bien d'accord.
C'est à l'extrême, c'est pas.
Oui, j'ai bien compris. Tu veux dire, en fait, l'idée, c'est que les gens n'auront pas le choix d'aller travailler où ils veulent. Mais ils n'ont pas ce choix, il faut être conscient de ça.
C'est vrai.
Aujourd'hui, ils n'ont pas ce choix, et ce choix, alors surtout pour l'Île-de-France, les gens habitent loin. Ils n'ont pas de choix, ils sont loin. Là, on dira, ils n'ont pas de choix, limite, et ils sont prêts. Si tu veux pousser le raisonnement à l'extrême.
Ils ont le choix d'aller chercher un emploi,
Eh oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se déménager ensuite. Mais donc, ça ne change rien dans le raisonnement que je tiens. Tu as des endroits, une maison, un travail, une petite distance, tu déménages pour une maison, un travail à petite distance. Ben, c'est toujours mieux que une maison, un travail à longue distance pour déménager pour une maison, un travail à longue distance. Ben, donc du coup, mon raisonnement tient toujours. Je ne vois pas en quoi il est ébranlé dans ce point de vue.
Mais on ne peut pas dire des objets.
Comment ?
Il y a plusieurs gens qui vont travailler dans le...
Oui, c'est très complexe. Mais est-ce que la situation actuelle répond à ce que vous dites ? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation actuelle répond à la critique que vous êtes en train de faire ? En fait, on est en train de faire la critique d'un modèle théorique que je suis en train de proposer pour réduire les consommations. Hein, grosso modo, c'est ça. Mais est-ce que l'état actuel aujourd'hui répond à cette critique ? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui de ce point de vue-là ? On est dans la situation où les couples travaillent à des endroits différents. En général, c'est la femme qui est sanctionnée. Hein. Ah, je voulais vous parler du papy vroom. C'est le truc que j'aime bien. C'est les retraités qui sont très motorisés. Et le problème, c'est que ça fait exploser encore plus les déplacements. Mais aujourd'hui, tu as exactement ce mécanisme. Il est intact. Tu ne le remets pas en cause, en fait, ce mécanisme, lorsque tu veux.
Est-ce que vous avez des chiffres sur les émissions dues aux très petites distances ? Parce qu'on sait qu'on fait très bien.
C'est une très bonne question.
Là, je dis c'est chez nos voisins allemands, par exemple. La moitié des trajets ont moins de 5 km.
Tout à fait. Le quart en France. Alors, le problème, c'est que c'est les déplacements. Alors, je n'ai pas les chiffres ici avec moi et je préfère pas te les donner, mais on peut se voir si tu veux pour que je les donne plus précisément. On compte en nombre de déplacements dans ces cas-là et pas en kilomètres voyageurs. Tu vois la différence ? C'est-à-dire qu'une personne qui fait 10 km, c'est égal à une personne qui fait 1 km. Donc, tu vas dire que la moitié, effectivement, sont à moins de 5 km. En France, c'est le quart, sont à moins de 1 km. Le quart des déplacements, mais c'est le quart des déplacements. Pas des kilomètres parcourus.
Oui, mais on sait qu'une voiture, par exemple, consommerait beaucoup plus sur les premiers.
Oui. Alors, quand j'ai donné les 150 grammes, c'est une moyenne sur l'ensemble du cycle, c'est-à-dire démarrage à froid, etc. Hein. Ensuite, si tu veux, là, tu vas jouer sur des trucs qui sont toujours à la marge. Ce que je veux exprimer, c'est ça. Si vous voulez, ce qui pèse, c'est votre distance et votre nombre de personnes. C'est ça qui pèse. Il suffit qu'une personne soit supplémentaire dans le flux, qu'elle se déplace sur 100 km pour que tous les efforts que vous avez fournis s'annulent par ce mécanisme-là. Donc, les enjeux sont dans la réduction, par exemple, j'ai plus le fil de ma réponse. Ta question, c'était...
Les petites distances, on va dire moins de 10 km, représentent combien de...
Voilà, je sais que moi, les très petites distances, donc je peux te dire 1 km, c'est le quart. Mais en nombre de déplacements, je n'ai pas le chiffre en kilomètres parcourus par
personne. Kilomètres ou en émissions ?
Ben après, tu fais une règle de 3 hein, en émissions.
Justement.
Oui, mais tu vois les masses ou pas en jeu ? Alors, je ne vous ai pas donné les chiffres, effectivement. Il faudra que je vous donne les chiffres. Mais ça va être fait par M. Feuillet, je ne sais pas s'il est arrivé. Voilà. Sur les bilans carbone, vous allez avoir des chiffres de ce point de vue-là.
Tu as parlé de kilomètres sur l'erreur
tout à
l'heure. Donc, c'est assez spécifique à l'automobile.
Non.
Si je prends un train, il ne consomme pas beaucoup plus d'énergie avec 100 voyageurs qu'avec 200 voyageurs. Donc, le nombre de kilomètres sur l'erreur augmente et l'énergie augmente.
Si. C'est des kilomètres voyageurs, c'est un kilo, si tu veux, c'est un nombre de personnes multiplié par une distance parcourue au total.
Si tu prends un TGV, la tarif, il transporte 100 voyageurs.
Donc ça va faire.
Il transporte 200 voyageurs, il consomme presque.
Oui, mais par kilomètre voyageur, ça fait plus. Ça fera la moitié dans ce cas-là. Si par exemple, tu as 100 km de TGV pour 100 personnes, ça va te faire 100 fois 100. Ça va faire 1000 km TGV voyageurs. D'accord ? Ensuite, si tu mets 200 personnes, ça va faire 200 fois 100 km. Ça va faire 2000 km voyageurs. Donc, si l'énergie est la même, tu divises, ben, du coup, tu as un ratio qui est meilleur lorsque tu fais 200. Ah oui, on est d'accord. Oui, c'est ça.
Donc, on arrive quand même, en fait, que les transports en commun sont quand même plus avantageux.
Lorsqu'ils sont remplis. Le problème, c'est ça. C'est lorsqu'ils sont remplis. Un bus, c'est efficace à partir de 11 voyageurs. 11. Pour arriver sur alors un bus dans l'état du parc actuel des bus. Parce que le super bus de la RATP qui circule, lui, il est super performant. Quoi. Mais si on prend le parc moyen en France, eh ben, c'est à peu près un ratio de 10 personnes.
Est-ce que la solution, justement, ce n'est pas de développer
s'il vous plaît.
Les zones de transport en commun, mais autour des grandes villes, quoi, pour décerner les zones autour des grandes villes.
tout à fait, il y a ça, mais ce que j'espère que vous avez retenu comme idée principale, parce qu'en une demi-heure, je n'avais pas le temps d'aller très loin, c'est que ce n'est pas le levier le plus disponible, ce n'est pas le système de transport. C'est ça l'idée principale, en fait. Effectivement, ensuite, on pourra aller sur des systèmes alternatifs, le vélo. Le vélo, c'est un très bon système de transport, en fait. Lorsque vous l'associez au transport en commun, ben, ce qui est difficile dans le vélo, dans le transport en commun, c'est le trajet terminal. C'est-à-dire, quand vous arrivez à la gare, ben, après, il faut marcher. Si vous mettez un Vélib, c'est ce qui s'est passé à Lyon, les Vélib à Pardieu sont saturés le matin. Donc, il n'y en a plus le matin, très très vite, tout simplement parce qu'il y a un report. Ce n'est pas un report modal, c'est la suite d'un trajet, c'est-à-dire une intermodalité du transport en commun vers le vélo. Ensuite, on finit le trajet. Donc, cette chaîne-là forme un mode de transport en soi. Mais vous agissez là sur le transport. Il y a toujours 1000 personnes qui viennent. Le problème, et même, ce qu'il faut réduire, c'est revenir aux fondamentaux. Ce que je dis, c'est la puissance, les plus gros leviers sont des leviers d'aménagement, en fait. Ce ne sont pas des leviers de système de transport. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts sur les systèmes de transport, par contre.
Non, mais c'est quand même l'automobile qui a tendance à rejeter plus de
ces... Oui, oui. Mais tu bricoleras. Ce que je veux te dire, c'est que tu vas bricoler. Nous, on veut des tendances baissières. On veut diviser par 4. Tu auras beau faire du report modal, etc., tu n'auras jamais 100% de la population dans le transport en commun, tout simplement parce que ton transport en commun est serré au centre et très étalé en périphérie. Donc en périphérie, tu ne vas pas... Sinon, si tu desserres tout, ça devient le transport individuel. Hein. Donc tu ne pourras pas irriguer l'ensemble du territoire. Et grosso modo, la masse de déplacement sera toujours pas la même, mais elle sera... On peut améliorer les choses en intra-urbain, c'est très facile à faire.
Est-ce que la solution, plutôt que de faire comme Renault un énorme centre de recherche où il y a 100 000 personnes concentrées au même endroit, pourquoi ne pas faire des zones décentralisées avec des téléconférences, avec du télétravail, voire même chez soi éventuellement, et je ne crois pas que chez soi soit la solution, parce qu'on a besoin d'être socialisé au travail, mais des petites unités qui sont en lien de téléconférence avec des centres.
Tout à fait. En fait, il y a cette idée donc, de multilocalisation des activités pour une même activité de même famille. On peut éparpiller, ça on le fait aussi pour les marchandises en fait. Donc, c'est-à-dire éparpiller sur le territoire des petits groupes qui ont besoin de se rencontrer. Par contre, le télétravail, ça c'est vraiment démontré, le télétravail augmente la mobilité et ne la réduit pas. Le truc, c'est un constat. Depuis les années 60, c'est un discours qui est beaucoup tenu. Le téléphone va réduire la mobilité. La télévision va réduire la mobilité. Alors l'exemple que je donne aux étudiants, moi je le disais quand j'étais ado, un type qui s'appelle Michel Aragon, c'est un truc. Futurologie dans les années 60, c'était très à la mode. Et ce type disait, ben regardez, je suis à la maison, je vois une pub de pizza, qu'est-ce que je fais? Hop, je prends mon téléphone, je commande une pizza. Je ne me suis pas déplacé, j'ai mangé, je me suis informé, etc. Donc du coup, la mobilité va chuter grâce à ce système-là. Eh bien non, ce qui s'est passé, c'est que la multiplication des moyens de communication multiplie les opportunités de déplacement, en fait. Et vous avez... La concentration, alors qu'on pensait qu'il y aurait un étalement urbain plus important, la concentration a augmenté, des activités, je parle, à cause des télécoms, et les gens se déplacent beaucoup plus. Vous faites une vidéoconférence avec un partenaire, par exemple, et bien à terme, vous allez le rencontrer en avion. Ce que vous ne faisiez pas avant, en fait, parce que ce type-là, vous ne le connaissez pas du tout. Et, non, mais c'est vrai, hein, en fait. Alors, sur, par exemple, le téléachat, on pensait que ça serait ça. Téléachat, vous êtes sur Internet, maintenant, vous achetez plein de trucs différents sur Internet. Quand vous faites votre panier, là, c'est de la logistique derrière et c'est le déplacement marchandise qui est énorme. Et vous allez le chercher dans un centre d'achat. Donc vous allez multiplier le réseau de communication de la production de marchandises, c'est-à-dire que les petites centrales de production viennent dans des centrales de distribution et vous vous déplacez encore. Il n'y a rien de pire, la caricature de ce fonctionnement, c'est le supermarché qui multiplie les lieux de livraison et qui encourage le déplacement des individus. Ça, c'est le bilan le plus nul qui puisse exister, le plus mauvais, parce que tout le monde se déplace, en fait. Les distributeurs comme les acheteurs.
Il nous faut suspendre notre réflexion pour respecter le temps.
Là, je vous remercie de la qualité du débat.